Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Mi-novembre, j'ai vécu l'une des plus intenses expériences de ma vie en participant à une retraite ayahuasca en Suisse, organisée par Alison. Adulé par certains, décrié par d'autres, ce mélange de lianes d'Amazonie est un puissant entéogène qui permet un voyage psychédélique au plus profond de soi. Vaincre ses addictions, affronter ses traumatismes passés, guérir de la dépression ou simplement se reconnecter au cœur, l'ayahuasca est une médecine de l'âme dont une cérémonie équivaut à 10 ans de thérapie. Mais c'est aussi une aventure humaine d'une rare bienveillance, où l'on perçoit l'autre comme une partie de soi plutôt que comme une menace. Dans cet épisode, Alison fait toute la lumière sur cette substance méconnue, abordant ses vertus comme ses risques et sa vision du rôle de facilitatrice. Nous aborderons aussi d'autres outils comme le cambo, le bouffo ou les breathwork, des ateliers de respiration qui permettent de libérer de la DMT sans rien consommer. Belle écoute! Salut Alison!
Salut David!
Écoute, je suis hyper heureux de te recevoir pour ce podcast. On a partagé un moment magique il y a une semaine et demie lors d'une retraite ayahuasca que t'as organisée au fin fond de la Suisse. C'était vraiment une expérience incroyable pour moi, tant dans le voyage que j'ai vécu que dans les enseignements que j'en retire pour le reste de ma vie. Donc je suis vraiment content qu'on puisse faire un petit peu la lumière sur cette médecine, comme tu aimes l'appeler, même si d'autres la qualifieront peut-être plutôt de drogue. Et justement, on va avoir l'occasion d'évoquer cette syntaxe du mot. Est-ce que c'est vraiment une médecine de l'âme ou une drogue récréative pour illuminer? Mais voilà, mais donc je suis très très contente pour évoquer ces sujets-là. Comme je le disais en intro, je pense que tu demandes à 10 personnes dans la rue en France ce qu'ils pensent de l'ayahuasca. Bah, il y a la moitié qui sait pas ce que c'est et l'autre moitié qui se dit c'est un truc de drogué ou un truc de perché, quoi. Et c'est la drogue la plus dangereuse au monde ou ce genre de choses. Donc j'ai envie qu'on déconstruise un petit peu potentiellement ces mythes, qu'on exprime ce à quoi ça peut servir et de quelle façon toi tu l'utilises justement comme voie d'élévation de la conscience, de l'âme, et non comme façon de se shooter, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un petit peu comment est-ce que t'en es venu à t'intéresser à ce sujet-là? Comment est-ce que toi t'as vécu ta première cérémonie d'ayahuasca? Et pourquoi est-ce que t'as eu envie de devenir facilitatrice en Suisse?
Alors, déjà merci pour cette opportunité, David. Je suis vraiment super, super heureuse de pouvoir partager ce petit moment avec toi et puis du coup de pouvoir raconter, entre guillemets, on va dire notre histoire, parce que c'est aussi ça. C'est différent pour moi du coup de pouvoir raconter ça avec quelqu'un qui en a déjà la vision, qui en a l'expérience et qui a déjà un avis personnel en fait sur les choses. Par rapport à mon propre parcours, j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel, même si j'avais commencé très très classiquement par un parcours en école de commerce avec un master, quelque chose de très terre à terre en fait, on va dire. En parallèle, j'ai toujours eu cet attrait pour le côté spirituel. Et les choses se sont faites que j'ai quelqu'un de proche de moi qui est tombé malade et j'ai commencé à chercher des solutions naturelles pour essayer de traiter cette personne, notamment au niveau neurologique. Donc en commençant à faire des recherches, je suis tombée sur le cambo et sur l'ayahuasca. Et c'est de là du coup que je me suis retrouvée à accompagner cette personne en fait sur une retraite. Et que ça s'est vraiment présenté comme une révélation, si on peut dire les choses comme ça, où les choses sont arrivées très très clairement, que c'était quelque chose qui devait entrer dans ma vie, que c'est ce pourquoi j'étais faite, que je devais le faire. Alors beaucoup de résistance au départ, je me suis dit non, je vais pas faire ça, enfin en tout cas pas tout de suite. Et au final, la vie a enchaîné les choses d'une façon assez comique, à sa façon, on va dire. pour mettre les choses en place et que tout se déroule.
Ok, ben justement, tu vois, moi, du coup, cette première expérience, j'ai vraiment été frappé par cette notion d'amour qui est radiée dans l'air. Quand je suis arrivé, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà participé à des cérémonies précédentes avec toi et ils me prenaient tous dans leurs bras. Et moi, la première réaction, c'était plutôt d'être gêné, tu vois, d'être un petit peu en retrait. Et malgré tout, ça me touchait, mais je trouvais quand même pas ça normal. Et le dernier jour, j'étais tellement heureux de tous les prendre dans mes bras aussi et je comprenais tellement ce qu'ils avaient voulu me transmettre quand je suis arrivé. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Est-ce que toutes les retraites ayahuasca sont entre guillemets tournées vers cette notion de justement de l'amour, cette reconnexion au cœur, un petit peu laisser de côté ce mental? Moi, tu vois, tu disais que tu étais très ouverte sur le spirituel. Moi, l'inverse, je suis quelqu'un d'extrêmement analytique, très très cartésien et du coup, mon mental a tendance à prendre toute la place. Et j'ai appris pendant ces 3 jours à ouvrir mon cœur et ça fait un bien fou aussi. Est-ce que ça fait ça à tout le monde ou est-ce que chaque chemin est propre et personnel en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu arrives et des choses que tu as trouvées?
Alors c'est les deux à la fois parce que quelque part la notion de cœur elle est universelle. Par exemple, tu dis, toi, t'étais quelqu'un de très cartésien. Oui, et en même temps, il y avait quelque chose qui t'appelait. Moi aussi, j'étais quelqu'un de très cartésienne. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis fascinée par ces rapports entre la science, la physique quantique, tout ce qu'on va venir prouver, en fait, du spirituel. C'est ce côté où on va rester ancré dans la matière et pas seulement partir dans des discours incohérents ou juste planant en fait d'une certaine façon. Pour revenir un peu sur ta question, chaque parcours avec l'ayahuasca va être complètement différent pour chaque personne. Mais le point de liaison, ça va vraiment être le cœur. Des fois, je le dis et très souvent, je le dis en début de retraite, les raisons pour lesquelles les personnes viennent en retraite, enfin, il va y avoir beaucoup. Je viens parce que j'ai des problèmes dans mon enfance, je viens parce qu'il y a des traumatismes, je viens parce que je suis curieux, je viens pour une thématique d'addiction, je viens pour me reconnecter à moi-même. Au final, le point commun derrière tout ça, c'est comment je peux m'aimer, comment je peux aimer l'autre et comment est-ce que je peux me reconnecter à moi et me reconnecter avec l'autre. Donc l'amour va vraiment être le leitmotiv derrière chaque action qu'on fait, en fait, dans notre vie. Mais vraiment, derrière chaque action. C'est ce que je vous dis d'ailleurs sur les retraites, c'est qu'au final, pour moi, l'ayahuasca est un des outils qu'on utilise, mais l'outil le plus puissant qu'on utilise, c'est vraiment l'amour. Que ce soit au travers des intégrations, dans toute la partie thérapeutique, que ce soit les personnes qui viennent aider dans la cuisine et qui mettent tellement d'amour dans tout ce qu'elles préparent, il y a vraiment ce côté où on se reconnecte de façon humaine. En rigolant, je le dis parfois, en fait, on prend l'excuse de venir sur une retraite thérapeutique ou spirituelle, mais en fait, on veut juste être avec des gens. On veut juste se reconnecter. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas avant de venir.
Non, c'est clair, les gens le savent pas avant de venir. Tu parlais des différentes motivations qui faisaient qu'on venait. Moi, à la base, j'étais plutôt venu dans une quête d'exploration, parce que tu sais, j'adore explorer le potentiel humain et ça faisait suite à ce chemin. Et je me suis vraiment senti effectivement reconnecté aux autres. Tu vois, quand je suis arrivé, au début, j'ai vu les différentes personnes qui étaient là. Et naturellement, de façon automatique, mon mental, il a commencé à les cataloguer dans différentes cases. Et en réalité, pendant les cérémonies, tout ça disparaissait. Tu voyais vraiment leur beauté intérieure et je sentais leur énergie, leur amour, leur bonté qui irradiait autour d'eux et la mienne irradiait aussi. Et t'as cette espèce de connexion magique et magnifique. Et ça fait un peu illuminé de le dire comme ça. Mais comme je l'avais dit, c'est beau d'être illuminé aussi, surtout par quelque chose d'aussi merveilleux que l'amour. Et d'autant plus, tu parlais des personnes qui aidaient dans la cuisine. Et j'ai appris après coup que justement, celle qui aidait dans la cuisine pendant notre retraite, on n'avait même pas pris. Et pour autant, j'avais l'impression qu'elle était complètement connectée aussi dans ses vibrations, dans cette énergie, dans cet amour. Et donc c'est vraiment dingue. Il y a plusieurs choses que tu as dit qui me donnent envie d'aborder déjà deux sujets. Le premier, c'est peut-être déjà parce que tu parlais de l'intégration. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment se déroule une cérémonie? Quels sont les temps forts? Pourquoi est-ce que ça se déroule de cette façon-là aussi? Histoire que les gens puissent se figurer un petit peu de ce que c'est. Et puis après, on abordera la partie un peu plus scientifique parce que tu disais que tu étais assez terre à terre, que tu aimais bien reconnecter le spirituel avec la matière. Et ben justement, on pourra aborder ce point-là juste après. Mais donc d'abord, comment est-ce que ça se déroule une cérémonie?
Une grande question. Je crois que la cérémonie, en fait, quelque part, c'est vraiment l'ordre du mystère. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va se passer entre l'énergie du groupe, l'énergie des facilitateurs. Et ce qui va venir s'ouvrir à cet instant T. C'est-à-dire que nous, sur les cérémonies, on ne sait jamais ce qui va se déployer. Il y a vraiment une grande partie qui est laissée au mystère. C'est-à-dire que les personnes vont entrer sur la cérémonie, on va donner une première dose. Nous, on va accompagner la cérémonie, que ce soit au niveau de la musique, des arômes. C'est un voyage qui est sensoriel, en fait, quelque part aussi, qui n'est pas que intérieur. C'est un voyage qui va être différent pour chacun, parce que ça peut être un voyage qui va être émotionnel, ça va être un voyage qui va être, on peut avoir des visions, on peut avoir des sensations, se reconnecter au corps, avoir besoin de bouger, de danser, de se découvrir de différentes façons. J'avais dit, par exemple, moi, j'ai découvert ma voix dans une session d'ayahuasca. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait ce potentiel qui était là. On dit de façon générale que l'ayahuasca va venir activer la mémoire cellulaire et ADN du corps. Donc, avec tous ces stimuli extrasensoriels, en fait, qui vont venir accompagner la session, ces mémoires vont commencer à s'ouvrir et chacun va partir en fait dans le voyage qu'il a besoin de réaliser à ce moment-là. Je dis toujours que c'est un voyage avec son meilleur ou sa meilleure amie quelque part, parce que on va aller lire sur internet que l'ayahuasca m'a dit ou ceci. Pour moi, c'est pas tout à fait ça. L'ayahuasca, oui, il y a un esprit derrière, la grand-mère, la abuelita comme on l'appelle traditionnellement. Qui va venir accompagner les cérémonies, qui va venir nous ouvrir la porte. Mais au final, ce qui va nous donner les informations, c'est cette partie supérieure de nous-mêmes, qu'on va appeler esprit ou âme ou soi supérieur. Peu importe au final le lexique qu'on va utiliser là-dessus, il y a vraiment ce côté où, en fait, on va aller faire ce voyage avec ce meilleur ami intérieur qui va nous emmener exactement où on a besoin d'aller. Et c'est pour ça que je dis toujours que on n'ira jamais, jamais, jamais vivre quelque chose que l'on n'est pas prêt à vivre. Et ça, j'ai différents exemples, en fait, de choses qui se sont passées où je l'ai vu avec différentes personnes sur des cérémonies, où j'ai une personne qui va venir sur une cérémonie une première fois, et puis tout va être très doux, et puis un an après, et seulement un an après, elle va ouvrir des portes de traumatisme, parce que c'était pas le moment avant. Donc il y a vraiment cet amour en fait qui vient accompagner les cérémonies et qui fait qu'on va venir vivre le voyage parfait au moment parfait.
Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui. Le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
Oui, ben tu fais bien de parler de voyage parce qu'il y a une vraie continuité justement sur ce chemin spirituel de reconnexion à son âme, comme tu l'appelles. Et moi, j'ai vraiment ressenti l'évolution sur les 3 jours où le premier, j'avais assez peu d'effet en réalité, même si ça m'a quand même permis une introspection assez profonde. Et les 2 suivants, ça a été crescendo et sur une route qui a vraiment été initiée le premier jour et qui a continué par la suite de vraiment de reconnexion à mon enfant intérieur, à un tas de choses que j'avais laissées en sourdine et qui pourtant étaient là, tu vois. Et à la fin, j'avais l'impression d'être un volcan débordant d'énergie, d'amour. Enfin, c'était merveilleux. Mais j'ai vraiment vu aussi l'évolution, tu vois, un peu comme si au début j'étais recroquevillé dans le froid et dans le noir, et puis qu'à la fin j'exultais dans la lumière, la chaleur. Enfin, il y avait vraiment une progression, tu vois, une vraie évolution. Donc je comprends bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je t'ai même demandé à un moment, mais c'était vraiment la même chose que j'ai pris entre le premier et le deuxième jour, parce que je pouvais pas croire que ça puisse faire des effets, entre guillemets, aussi différents avec la même substance, simplement parce que le deuxième jour, j'étais un peu plus réceptif, un peu plus ouvert, un peu moins aussi dans l'attente de quelque chose et un peu plus dans l'ouverture de ce qui allait arriver. Et tu fais bien aussi de parler de voyage sensitif. Parce que bah, d'abord, tu as une voix merveilleuse, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et je te remercie de me donner l'opportunité à la fin de cet épisode de diffuser un petit enregistrement que tu as fait, parce que c'est vraiment un cadeau au monde. Et du coup, évidemment, effectivement, plutôt sous ayahuasca, tu ressens toutes les vibrations de l'amour des autres, etc., de façon beaucoup plus forte, mais aussi de la musique, de la danse, des mouvements, des odeurs. Et moi, je voyais la couleur de la musique, je sentais les mouvements des autres quand ils dansaient, etc. T'as une espèce de surperception, on va dire, de ce qui se passe autour de toi. Et en même temps, tu vois, tu l'intellectualises pas, tu le vis vraiment avec le cœur, tu vis tes émotions. Je dis souvent que ma fille m'inspire énormément, ma petite fille qui a 11 mois, parce que je m'aperçois que elle est vraiment dans l'émotion, tu vois. Elle est dans la transcendance de l'émotion. Elle se pose pas de questions, elle est pas en train d'essayer de suranalyser tout. Elle se permet juste de vivre telle qu'elle a envie de vivre. Et je trouve que, en tout cas moi, avec mon travail, avec ma vie, je suis devenu tellement sérieux. Enfin, je sais déconner, hein, j'adore rire, etc. Mais je veux dire, malgré tout, je rentre dans une espèce de rang social et je m'autorise plus assez de donner de la vie dans ma voix, d'utiliser des superlatifs, de faire n'importe quoi, de laisser vivre mes émotions, ma tristesse, mon amour, ma colère aussi, pourquoi pas. Tu vois, je suis toujours en train d'essayer d'édulcorer les choses que je ressens. Pour éviter de, je sais même pas pourquoi, peut-être parce que par convention sociale c'est comme ça qu'on nous demande d'être, et ça fait tellement du bien de se reconnecter avec son moi intérieur et de se permettre de vivre profondément, tu vois, en parfaite connexion, en parfaite vibration avec son cœur, en laissant un peu le mental de côté. C'est vraiment très 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 beau, très très puissant. Malgré tout, t'as raconté un peu que le voyage était différent à chaque fois, etc. Mais il y a quand même des temps forts. Enfin, je suppose que chaque cérémonie se déroule un peu comme celle que j'ai vécue, c'est-à-dire que d'abord il y a un peu de préparation, tu discutes. Après, il y a la cérémonie qui se passe le soir. Est-ce que déjà il y a une raison pour le fait qu'elle se passe sur cette tranche horaire là? Et le lendemain matin, il y a toute la partie d'intégration. On discute ensemble, qui est aussi hyper importante parce que du coup, ça te permet. C'est marrant parce que ça pourrait faire peur à certains de quelque part de laisser leur cœur parler et de raconter ce qu'ils ont vécu, surtout que souvent c'est de l'introspection, donc c'est des choses assez personnelles qui peuvent se ramener à toi et que tu peux avoir peur de partager à de parfaits inconnus. Mais d'un autre côté, t'as vécu cette telle unicité, cette telle union de l'amour, que t'as l'impression que les autres sont une partie de toi et que toi t'es une partie des autres, et t'as laissé tomber tous tes fils, tous tes jugements, toutes tes carapaces, et donc t'as absolument pas peur de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens. Et rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Enfin, je pense que même devant un psychologue, il te faudrait peut-être quelques séances avant d'oser te livrer à ce point-là. Et là, vraiment, il y a tous les masques qui tombent, et pendant la phase d'intégration, donc on est complètement sobre. Je sais pas quel est le mot comparé à l'ayahuasca, mais donc je vais utiliser celui pour l'alcool. Donc t'es complètement sobre, et pour autant, t'as vraiment le cœur qui est ouvert, et t'es capable d'exprimer sincèrement ce que t'as ressenti et ce que t'as compris de cette cérémonie. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu l'intérêt de chacun de ces différents temps, donc la préparation, la cérémonie, l'intégration et la logique un petit peu de toute cette organisation dans les trois jours de la retraite?
Alors, pour moi, je dirais même que ça commence même avant la préparation, parce que pour moi, ça commence à partir du moment où j'ai la personne au téléphone. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose, c'est que j'ai toujours les personnes au téléphone avant les retraites. Et je dis toujours que l'accompagnement que je fais, c'est un accompagnement avant, pendant et après les retraites. Donc, avant les retraites, je crée déjà ce climat de confiance avec les personnes, parce que quelque part, si déjà au téléphone, il y a quelque chose qui ne résonne pas, et ça arrive, j'ai des personnes que j'ai au téléphone qui, au final, pour la raison que ce soit, ne résonnent pas du tout avec mon énergie, et décident de ne pas venir et vont être guidés vers la bonne personne au final pour aller faire leur expérience. En tout cas, à ce moment-là, déjà, il y a quelque chose qui va se créer où je vais déjà rentrer dans un cadre thérapeutique avec cette personne. Je peux l'avoir juste une fois au téléphone ou je peux l'avoir plusieurs fois au téléphone avant les retraites. Ça va dépendre des besoins de chacun. Et puis, il y a aussi le moment où quand vous arrivez, le moment où je prends le temps toujours de discuter avec vous avant la préparation pour justement savoir et sentir où est-ce que vous êtes. Et pouvoir, parce que j'ai des personnes qui arrivent qui sont très, très stressées. C'est la première fois, elles ne savent pas où elles arrivent. Il y a quelque chose, il y a des peurs de toute façon qui vont s'activer. Donc pour moi, cette étape aussi où je discute de façon privée avec les personnes avant d'entrer dans la préparation de groupe est aussi une étape importante. Et je vois que ça, en général, on ressort de cette conversation déjà un peu plus détendu et un peu plus ouvert. La préparation va venir créer ce premier espace de confiance avec le groupe. Même si je sais que ça se fait déjà de façon informelle quand vous vous rencontrez et quand vous avez cet espace pour commencer à discuter entre vous et vous rencontrer. Mais là, de façon plus formelle avec la préparation, donc on va entrer déjà dans ce cadre de confiance. J'aime bien toujours dire que au final, quand on s'ouvre à écouter l'autre comme si c'était nous-mêmes qui parlions, on ouvre vraiment une autre dimension à l'écoute. Et c'est ce qu'on arrive à créer dans ces retraites, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus cette séparation entre il y a moi et il y a l'autre. Il y a ce côté où on se rend compte que chaque histoire vient résonner avec quelque chose en nous. Même si la personne a vécu quelque chose de différent, on va avoir cette résonance. C'est ce qu'on va retrouver du coup après les cérémonies, pendant les intégrations, où l'espace de confiance s'est créé pendant la nuit. Vous avez tous vécu la même chose. Vous êtes passés des fois par des moments très très intimes ensemble, que ce soit tout ce qui peut être purge pendant les cérémonies, les pleurs, ce qui peut sortir, même les rires. Quelque part, il y a une intimité qui se crée au travers de toutes ces émotions qui sont partagées et qui fait qu'on va pouvoir venir ouvrir plus de portes pendant l'intégration. Et pour moi, l'intégration thérapeutique, elle est tout autant importante que l'ayahuasca. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui veulent venir faire une retraite avec moi, après chacun facilite et gère ses retraites comme il veut, avec moi, les personnes doivent venir les 3 jours pour la première fois. Après, quand les personnes veulent revenir et si elles ont besoin juste d'une cérémonie parce qu'elles veulent juste approfondir chacune certaines choses, mais pour moi, je ne peux pas faire mon travail correctement si la personne ne vient pas sur 3 jours. Parce que sur une journée, je n'ai pas le temps de faire le travail thérapeutique qui se fait sur une retraite. Et je le dis souvent, je ne me dédie pas à faire des cérémonies d'ayahuasca. Je me dédie à créer un environnement thérapeutique pour vraiment aller en profondeur sur certaines choses. Et énormément de personnes me l'ont déjà dit et confirmé que ces trois jours, en fait, valent 10 ans de thérapie. Et hein, je dis ça et je pense à une des personnes qui était là sur la retraite où tu en as été témoin. Il y a des choses qui sont ressorties de l'enfance qu'elle n'aurait jamais été touchées. C'est, pour moi, c'était vraiment incroyable. Ou une autre personne qui était venue pour des schémas d'addiction où il y a vraiment eu un changement entre le premier jour et le dernier jour. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau de voir ça à chaque fois. D'ailleurs, ça fait penser, tu m'as dit, je fais le plus beau métier du monde, oui, complètement.
Mais c'est vrai, parce que je lui ai dit, ça doit être incroyable et tellement gratifiant pour toi de voir des gens, entre guillemets, renaître, parce que je pense que c'est vraiment ça le mot. C'est vraiment magnifique. Et moi, c'est vrai que j'ai pu l'observer chez moi. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et pour autant, maintenant que j'ai trouvé ça, eh ben, j'ai l'impression que je pourrais pas vivre sans cette partie de moi. Que j'avais oublié ou laissé complètement de côté. De toute façon, je raconterai dans une newsletter un peu cette aventure qui m'est personnelle, évidemment. Mais est-ce que j'en ai retiré? Et effectivement, il y avait quelqu'un qui disait qu'il buvait tous les jours dès le petit déjeuner depuis 10 ans. Et que là, il a passé 3 jours sans boire et que pourtant, il s'est jamais senti aussi bien. Et voilà, ça lui était jamais arrivé depuis 10 ans. Et tu le voyais, c'est vrai que il mentait pas, tu vois, il était dans le vrai, dans la sincérité, je veux dire, il était pas en train d'essayer de se forcer à pas boire et tout, alors qu'il était totalement alcoolique, quoi. Et c'est fou, et en même temps je pouvais parfaitement le comprendre et le concevoir, parce que justement tu te sens tellement rempli, entre guillemets, rempli de l'amour des autres, etc. Et d'ailleurs la notion de groupe est vachement importante. Je pense qu'une retraite d'ayahuasca pourrait pas s'imaginer tout seul chez toi dans ton canapé, tu vois, ça aurait, t'aurais pas cette énergie des autres qui te portent aussi, qui t'aident à faire ce travail là et qui te donne une espèce de soutien, d'épaule, et puis voilà, qui te remplit justement de cet amour, parce que forcément tu vois, quand tu vis des choses, quand tu vas chercher et que tu essaies de lever des blocages qui sont potentiellement tristes, le fait de ressentir la bonté des autres autour de toi est une épaule hyper hyper importante, je pense.
Mais plus que ça, enfin en tout cas, moi je le vois qu'à chaque retraite, mais là par exemple pour cette thématique sur l'addiction, il y a eu un moment où j'ai regardé la personne qui facilitait avec moi et je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que la guérison de cette personne, c'est pas seulement les médecines, c'est l'amour. Mmh. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été reçu, que quelqu'un ne lui a pas parlé et accueilli comme quelqu'un de normal, et qu'on ne l'a pas traité avec amour. Et là, il avait 10 personnes autour de lui qui lui ont parlé avec respect, avec amour. Et la guérison est vraiment passée par là. Et c'est pas quelque chose que seulement moi ai apporté, c'est quelque chose que le groupe a apporté au final.
Ouais, clairement. Je trouve que t'as parfaitement résumé ce que je ressentais sur le sujet. C'est tout à fait ça. Bon, du coup, on va quand même faire cette petite parenthèse scientifique, parce que c'est quand même important d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, ce que ça fait sur le corps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les voies d'action d'ayahuasca, et pourquoi est-ce que ça te permet justement d'atteindre, moi je parlerais plutôt d'états élevés de conscience que d'états modifiés de conscience. Je trouve que les états modifiés de conscience, je les ai peut-être plutôt connus avec les champignons par exemple, qui modifient vraiment ta perception du monde en décuplant tes ressentis, en décuplant la sensibilité, tes sens, qui est aussi très intéressante, tandis que l'ayahuasca, je trouve que c'est plutôt un état élevé de conscience, parce que tu arrives à aller je sais pas, aller chercher des choses beaucoup plus loin dans toi, en toi, et ressentir aussi beaucoup plus ces énergies, etc. C'est difficile à décrire. Donc, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps pour permettre justement cette introspection, cette ouverture?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on va reprendre un petit peu l'ayahuasca, c'est ce qu'on appelle un entéogène. Dans le mot entéogène, le latin veut dire entéos renesis, ce qui veut dire la connexion au divin en soi. Théos étant la divinité et renesis étant les gènes. L'ayahuasca est traditionnellement composé de deux plantes qui sont la chakruna et le kapi. Ce qu'on appelle l'imao va venir faire un inhibiteur dans le cerveau qui va permettre à la substance active qui est la DMT de passer la barrière encéphalique et de pouvoir activer, on va dire, cette divinité à l'intérieur de soi. Et il est souvent admis en fait que la DMT, il y a deux moments dans la vie où le corps la produit de façon très forte. C'est au moment de la naissance et au moment de la mort. Donc on pourrait dire en fait que ces substances viennent justement activer ces mémoires qui sont vraiment entre l'incarnation et ce qu'il y aurait au-delà. Sur le plan neurologique, la grande différence en fait entre ce que nous on appelle des médecines et des drogues, c'est que les drogues vont venir détruire des synapses et détruire des neurones, quand les médecines viennent créer des synapses et créer des nouveaux neurones. Ça, c'est des études qui ont été faites sur l'ayahuasca. On nous a toujours dit que les neurones en fait diminuaient en fait au fur et à mesure, qu'on perdait de la capacité cérébrale à partir d'un certain âge. Maintenant, c'est prouvé que l'ayahuasca recrée des neurones et recrée ces connexions. Qu'est-ce qui se passe si on part du principe que le cerveau, ce serait un petit peu l'ordinateur qui gère notre réalité. Des fois, on dit même que le cerveau est l'ordinateur et que la glande pinéale serait ce qui permet de projeter le projecteur de notre réalité. Donc, comme un petit peu projecteur d'une réalité virtuelle. On va dire ça comme ça. Si on recable notre ordinateur et si on recable, en fait, donc on crée de nouvelles connexions, au final, le cerveau va pouvoir agir et recréer des nouvelles connexions dans notre réalité. Ce qui va faire que notre capacité de compréhension de ce qui nous arrive, de ce que l'on fait, de nos actions, va être complètement, complètement décuplée, en fait, au final. Et ça, c'est vraiment le changement qu'on peut voir dans notre réalité. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté depuis que tu es rentré chez toi, mais en fait, on se retrouve face à une situation qui est exactement la même situation qu'on avait vécue avant, sauf que notre réaction, la façon dont on va processer, on parle beaucoup de process dans le milieu de la spiritualité. Je suis en train de faire mon processus. Bah oui, comme un ordinateur. Quelle est ta vitesse de processus? Donc moi, je l'expliquerai un petit peu comme ça, c'est que vu que le câblage, eh bien, il est un petit peu mieux fait, la vitesse de processus, elle devient beaucoup plus rapide, en fait. Donc, on va réagir de façon différente aux événements. Aussi, vu qu'il y a toute la partie, en fait, où on va avoir processé des choses, compris des choses sur nous-mêmes, les réactions ne vont plus être les mêmes. C'est-à-dire que quand on va venir activer, donc, là, c'est le côté un petit peu magique, en fait, de la chose. Par exemple, quand on va venir activer des souvenirs, on va pouvoir venir essayer de comprendre des choses qui nous sont arrivées dans notre enfance ou... Par exemple, pour une chose personnelle, moi, j'ai vécu ma naissance dans une session. J'ai vécu, je me suis sentie vue dans le ventre de ma mère et j'ai vécu ma naissance. Et quand j'en ai parlé avec ma maman, elle m'a bien confirmé qu'effectivement, les choses s'étaient bien passées comme ça. La seule chose, c'est que ben, moi, j'ai perçu un abandon. Et j'avais toujours eu une thématique d'abandon dans ma vie qui revenait, comme une blessure. On parle des cinq blessures de l'âme, ça avait été bien étudié par Lise Bourbeau. Mais moi, j'avais toujours perçu ça dans ma vie, sans vraiment comprendre pourquoi. Vu que j'avais eu des parents super aimants, qui avaient toujours été présents pour moi. Donc, pourquoi cette thématique revenait? Et ben, tout simplement, parce que quand je suis née, j'avais la jaunisse. Que, en plus, ça s'est pas forcément très bien passé, qu'on m'a sortie au forceps, donc que j'ai eu très très peur. Je l'ai vécu dans mon corps de bébé, qu'on m'a mis dans les bras de mon père, qu'en fait, on m'a retiré assez rapidement pour me mettre sous une lampe. Donc, l'abandon, le fait que de ne pas avoir été rassurée, je comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Et puis, donc, c'est une fois qu'on va venir comprendre ces choses-là, donc que ces blessures, en fait, intellectuellement sont comprises, on va pouvoir, du coup, venir s'en libérer. On peut faire un petit peu le parallèle aussi avec l'hypnose, d'une certaine façon. L'hypnose étant pour moi un petit peu moins concrète, parce que finalement on part, on fait ce voyage, on nous emmène, on a des images qui arrivent, des compréhensions, mais en tout cas pour moi ça m'a toujours paru très flou. Il y a quelque chose qui se passe avec l'ayahuasca, que l'écran là il est bien en 3D, bien en couleur et qu'on voit vraiment bien les choses. Et au final on va venir faire ce voyage qui est un peu un voyage hypnotique, on va pouvoir voir nos traumatismes, voir notre potentiel, le faire, le processer et se rendre compte en fait des choses pour pouvoir venir les libérer.
Non, tout à fait. Tu décris très bien tout ça. Et effectivement, par rapport à ces nouvelles voies neurales, j'ai cette impression de réagir différemment face à des situations connues. Donc, ça se tient en tout cas dans l'expérimentation. D'un point de vue scientifique, j'ai pas été vérifier la chose, mais d'un point de vue ressenti, clairement, j'ai une façon différente de réagir à des situations connues, et puis des façons différentes et plus vertueuses. Et d'ailleurs, le plus vertueuse m'amène à une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des voies neuronales qui, à l'inverse, seraient plutôt néfastes pour la personne? Et en fait, je te guide un peu vers là où je veux t'emmener, c'est que parfois tu peux lire ci et là que l'ayahuasca c'est dangereux parce que tu peux rester perché, ne plus voir la réalité telle qu'elle est réellement, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Pour moi, c'est des accompagnements qui ont été mal faits. Moi, je me suis un petit peu séparée d'une certaine façon de la culture chamanique sur beaucoup de plans. Mais en tout cas, la chose que j'ai beaucoup vue, c'est cette tendance, en fait, où quand une personne va sur une session, où la personne est déjà très mal, en train de vomir, et puis en fait, plus elle vomit, et plus on va venir lui redonner de médecine. Et c'est encore, et encore, et encore, et encore, et encore, comme si c'était un exorcisme, en fait. Et ça, c'est cette croyance, en fait, un petit peu du chemin de croix, qu'il faut souffrir pour atteindre une guérison. Et on va pousser les gens à des extrêmes qui sont parfois pas forcément capables de gérer. Ensuite, l'accompagnement thérapeutique, quand c'est pas l'accompagnement thérapeutique, pour moi, ça, je sais que ça peut avoir des effets. Enfin, en tout cas, j'ai le cas en ce moment de quelqu'un qui a été faire une retraite en Italie, parce qu'il était très pressé, qu'il n'a pas voulu attendre. Et en fait, bah, il m'a appelé après, et là, ça fait quasiment 3 semaines que je suis en contact avec cette personne 2-3 fois par semaine, parce que ça a fait bouger beaucoup de choses, que la personne qui lui a donné la cérémonie ne répond pas au téléphone, et qu'il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider à intégrer, en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je ne donne pas une cérémonie, parce qu'effectivement, si on ouvre une porte et que la personne, elle a besoin de plus de temps, moi, sur les 3 jours, je sais qu'avec le travail thérapeutique que je fais, la personne va rentrer à la maison en se sentant bien. Mais sur une cérémonie, pour moi, il me faut un peu plus de temps pour pouvoir travailler. C'est pour ça que je dis quand c'est la première fois, c'est j'ai besoin que la personne vienne en retraite complète. Quand la personne a déjà expérimenté des choses, qu'on a vu que tout va bien et que la personne peut venir juste pour une cérémonie, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi, on n'ira jamais ouvrir des portes qu'on n'est pas prêt à vivre. Il y a aussi une certaine justesse aussi dans tout ça. Au final, quand une personne décide d'aller sur ces cérémonies et d'aller vivre ça, il y a quand même une partie plus haute de soi qui a décidé d'aller vivre cette expérience, pour la raison que ce soit. Et au final, moi, j'ai quand même cette confiance que les choses reviennent au bout d'un moment à la normale, ou qu'au final, on nous met les bonnes personnes sur la route. Si je prends le cas de cette personne-là, quelque part, même s'il n'est pas venu faire de cérémonie avec moi, d'une façon ou d'une autre, j'ai été mise sur sa route pour continuer l'accompagnement et pour qu'il ne se retrouve pas tout seul dans cette situation. Donc, il y aura toujours pour moi, une certaine justesse dans tout ça.
Mais clairement, le métier de facilitateur te dote d'une responsabilité qui est quand même très importante, notamment, donc on en a parlé, on l'a déjà pas mal évoqué, mais tu vois, il y a toute cette notion d'énergie, de vibration, et je suis pas du tout quelqu'un qui croit au mystique à la base, etc., mais là j'ai vraiment ressenti toutes ces vibrations, toute cette énergie qui est émanée de toi, des autres facilitateurs qui t'épaulaient, mais aussi de tous les autres participants. Et c'est un peu cette unicité, cette espèce de symbiose, de voix commune qui est aussi hyper grisante et agréable. Mais tu vois, c'était tellement intense justement dans cette ouverture, dans cet amour, que j'imagine que ça peut avoir exactement la même intensité dans le mauvais côté. Si t'es pas accompagné, déjà si toi t'as peur. En tant que facilitatrice, je pense que si toi, t'as peur, que tu t'as peur de pas bien maîtriser la chose ou que ça dérape ou autre, je pense que déjà, ça se ressentirait, que ça pourrait créer des peurs chez les autres. Et encore pire, si quelqu'un est sincèrement mal intentionné, bon, je vois pas pourquoi il ferait ça, mais sait-on jamais, mal intentionné, je pense que t'es dans un état qui est tellement, entre guillemets, tellement ouvert, tu vois, t'es tellement reconnecté à l'enfant qui est au fond de toi, à ton cœur, etc. T'es tellement ouvert que si quelqu'un a envie de te détruire, ben je pense que t'es dans le parfait état pour être détruit. Donc je pense qu'il est hyper important justement de tomber sur des personnes sincèrement bienveillantes qui ont à cœur justement d'aider les gens à progresser dans leur vie, à être plus heureux, à guérir des blessures ou à comprendre un petit peu cette voie de l'amour, de la spiritualité, etc. La spiritualité dans son sens large, hein, et je précise et je rappelle que tu proposes rien de religieux, hein, il y a absolument rien de religieux dans tes retraites, enfin en tout cas j'ai rien perçu de religieux dans tes retraites, mais c'est vraiment une spiritualité plutôt de l'âme, on voit dans le sens de l'élévation de l'âme, et donc je pense effectivement que c'est hyper important de tomber sur quelqu'un qui soit comme toi, hein. J'aurais pas aimé le faire avec quelqu'un d'autre pour être honnête, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui sont aussi aussi bienveillants que toi, mais à mon avis c'est vraiment important. J'avais lu une fois un article d'un gars qui avait fait une expérience comme ça en Belgique, c'était des espèces de rabatteurs qui proposaient ça dans la rue, tu vois, c'était pas du tout lié à un truc spirituel, c'était plutôt en mode récréatif, fait une expérience d'ayahuasca comme ça, et puis au final t'étais dans une salle froide, dégueulasse, avec un chaman à moitié taré, aucune intégration derrière, et puis voilà, enfin vraiment le bad trip complet, et puis complètement en mode drogue dégueulasse, tu vois, plutôt rêve party que cérémonie d'amour. Et du coup, le gars a raconté que ça l'avait traumatisé, que depuis il avait des peurs, etc., machin. Et je veux bien croire que ce soit le cas, parce que la façon dont il décrivait le truc, enfin, c'était tellement loin de ce que j'ai vécu avec toi.
Mais moi, ce qui me fait rire, c'est pourquoi cette personne, qu'est-ce qui a fait dans l'énergie de cette personne qu'elle a choisi d'aller là?
Ouais.
Parce qu'au final, il y a toujours ce côté-là, au final. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller vivre telle ou telle expérience? Parce qu'au final, il y a une raison, quelque part. On vient se confronter à quelque chose, après on peut dire, c'est la faute des personnes qui l'ont fait, etc. Non, il y a aussi une responsabilité de la personne qui a décidé d'aller à cet endroit. Pour la raison que ce soit de vivre cette expérience-là. S'il y a un message, moi, que j'ai vraiment envie de faire passer et que j'en profite pour ce podcast, parce que je vois beaucoup, il y a des groupes sur Facebook qui parlent de l'ayahuasca, qui parlent de... Et très souvent, je vois, faites bien attention de trouver un chaman expérimenté. Et très souvent, on m'envoie un message et on me dit, est-ce que tu es chaman? Et je dis, mais moi, c'est un titre qui m'intéresse même pas. Parce que pour moi, c'est un titre qui est quand même, qui reste un personnage. Qui reste beaucoup lié à l'ego. On m'a donné un titre. Voilà, c'est bon. J'ai mon diplôme, j'ai mon papier, je suis content. Attention, il y a des chamans qui sont extraordinaires. Moi, je travaille avec certains qui sont vraiment des personnes avec un cœur et qui font les choses depuis un espace sacré qui est vraiment qui ont vraiment beaucoup beaucoup de respect. Mais à l'inverse, je connais aussi des personnes qui ont eu des expériences avec, par exemple, un chaman qui donne sa cérémonie et puis qui sort, qui va se bourrer la gueule à la fin d'une cérémonie et qui bat sa femme à la fin d'une cérémonie. Et ça, c'est une histoire vraie, c'est quelque chose de... Mais il a le titre chaman. Donc, en fait, on vient lui donner de la confiance par rapport à un titre. En fait, je trouve ça triste qu'un titre, un papier, un costume viennent donner plus de valeur que ce qu'on peut ressentir de cœur à cœur avec une personne. Et je pense que c'est là où les gens devraient observer pourquoi est-ce que je veux mettre mon pouvoir à l'extérieur? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un chaman? Qu'est-ce que j'attends de ce chaman? Au final, moi, ce que je dis toujours aux personnes pendant les cérémonies, c'est que que ce soit la divinité, que ce soit le chaman, que ce soit cette force, ce pouvoir, cette puissance, mais elle n'est pas à l'extérieur. Elle est dans chaque personne qui est là. On vient faire reflet à certaines choses. Forcément qu'il y a des connaissances, il y a un professionnalisme, il y a de l'expérience qui vient et qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Mais la chose la plus importante, c'est de voir avec quoi est-ce qu'on résonne, qu'est-ce que notre énergie vient attirer.
Je ne peux être que parfaitement d'accord avec toi. Et excuse-moi pour cette petite parenthèse sur les dangers, mais je pense que c'est important d'en parler. On a parlé des dangers moraux, intellectuels, spirituels. Maintenant, d'un point de vue physique, t'évoquais notamment des chamans qui, au fur et à mesure que tu vomissais, t'en redonnais. Il y a aucun risque physiologique d'overdose ou de problème de ce type?
Moi, je pense que si. Très honnêtement, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé parce que on ne donne pas les mêmes quantités quelque part qui sont parfois données dans la forêt amazonienne. Il faut être très clair là-dessus. Mais en final, j'ai déjà entendu en discutant avec certaines personnes, si mettons la personne a été poussée à prendre plus et plus et plus et plus de médecine. Là, il n'y aura aucune responsabilité de prise au final. On le sait très bien. C'est au fin fond de la jungle amazonienne et ça sera... Oui, bah, c'est la médecine qui voulait que ça se passe comme ça. Peut-être. Il y a une part avec laquelle je raisonne dessus et je trouve ça dommage de devoir en arriver là. On a quand même un certain protocole avec des quantités qui sont adaptées. Et aussi, sur le plan sécurité... Moi, comme beaucoup de facilitateurs, en ce moment, on travaille avec un médecin avec lequel on fait des études en fait aussi sur ces médecines, que ce soit avec l'ayahuasca, mais aussi avec le cambo, comme on a des résultats sur pas mal de pathologies, que ce soit des cancers, des fibromyalgies, et j'en passe. Du coup, on fait des études avec ce médecin pour avoir de plus en plus de données. et pouvoir documenter un petit peu les expériences qui sont vécues avec ces médecines et les guérisons qu'on va avoir aussi avec ce protocole-là. Par exemple, moi, quand j'ai un participant qui arrive sur une retraite et qui est sous médication ou qui a été opéré ou qui a certaines choses, je vais toujours avoir un contact avec ce médecin pour voir est-ce que cette personne peut venir à une retraite ? Oui, non. Est-ce qu'elle peut prendre une dose complète ? Ou est-ce qu'on nous propose une dose que ce soit la moitié ? En tout cas, il y a tout un protocole qui est fait pour que l'expérience soit vécue avec professionnalisme et sécurité. Tu parlais aussi par rapport à cette personne qui a été en Belgique. Pour moi, je sais que sur les retraites, le confort que je vais pouvoir vous apporter pendant les retraites est aussi quelque chose qui est tellement 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 important pour moi, que vous puissiez vivre cette expérience dans un endroit qui soit confortable. C'est pas entre guillemets, j'ai toujours, enfin je suis pas là pour monter un campement de hippie quoi. C'est aussi de avec amour et dignité qu'on fasse les choses avec de l'amour, du respect et de la dignité afin que chacun puisse reconnecter avec ce qu'il mérite réellement.
Non mais ça c'est clair, on y était très bien et c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu moins exotique d'aller faire une cérémonie ayahuasca dans l'Amazonie, mais ça c'est juste pour l'ego, c'est juste pour le raconter aux potes. Dans les faits, moi je me sentais beaucoup plus en confiance de le faire dans un pays entre guillemets industrialisé comme la Suisse, où je savais que bah, s'il y avait un problème ou autre, il y avait aussi, tu vois, ce support qui existait, et en même temps ce confort d'un chalet qui est hyper agréable. On avait des matelas, on était bien installés. Enfin, tu vois, c'était hyper chaleureux, on n'avait pas froid. C'est sûr que c'est important, et du coup, ça te permet de te centrer sur toi, sur ton expérience, sur ton voyage, sur ta réflexion, et de pas être perturbé par des stress extérieurs. Et quand je parle de stress, je peux parler de stress psychologique, mais aussi de stress physique, si tu as froid par exemple, ou s'il pleut, ou si tu te fais attaquer par des araignées, des moustiques, j'en sais rien, tu vois. Et donc t'as pas tous ces petits perturbateurs qui viennent dégrader ton expérience. Et du coup, t'as parlé du cambo. Tu pourrais faire un petit focus sur cette autre médecine que tu utilises, sur son intérêt et sa voie d'action.
Alors, par où commencer? déjà, le cambo n'est pas un entéogène. C'est pas une médecine qui va venir travailler sur le côté visuel, psychédélique de l'expérience. C'est une médecine qui, pour moi, va travailler sur le nettoyage des corps. On va travailler sur le nettoyage du corps physique, du corps émotionnel, du corps énergétique. Dans la tradition chamanique, on dit que le cambo va permettre de nettoyer et d'aligner les chakras. Ce que moi je perçois par le fait qu'après le cambo, on sent que nos sens sont plus aiguisés, sont plus subtils, que ce soit la vision, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, on le sent qu'il y a cette sensibilité. D'ailleurs, c'est une médecine qui est utilisée dans la forêt amazonienne avant d'aller chasser justement pour augmenter les sens. Le cambo dans la forêt amazonienne, ils appellent ça la vacuna de la selva, ce qui se traduit voudrait dire la vaccination de la jungle. J'en rigole beaucoup en ce moment en disant à tout le monde, oui, je suis toujours en train de chercher une façon pour changer ce nom, mais ça va pas être très possible. En tout cas, nous, on l'a toujours appelé comme ça. Dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué de parler de vaccination. Mais en tout cas, il y a ce principe où on va agir comme un vaccin dans le sens où on va venir d'une certaine façon, stresser le système immunitaire, attaquer le système immunitaire afin que le système immunitaire vienne se défendre contre cette substance. Le cambo étant le poison d'une grenouille qui est appliqué au travers de la peau, au travers de petites brûlures superficielles qui permettent simplement de venir passer dans le système lymphatique. Donc une fois qu'elle va passer dans le corps, elle va venir vraiment faire comme un scan du corps où ça va venir libérer plein de blocages. Il peut se passer plusieurs choses, il peut y avoir tout le côté purge, mais moi je constate aussi qu'il y a un très très gros côté émotionnel. J'ai alors des personnes qui vont avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter pendant le cambo. Donc il y a ce boost en fait qui va se faire du système immunitaire. Et Et pour moi, l'intérêt du cambo, c'est qu'on peut autant travailler en prévention que lorsqu'il y a une maladie à guérir. Aujourd'hui, dans le cadre médical, que ce soit avec l'énergétique ou même l'homéopathie ou de différentes formes, il est quand même de plus en plus admis qu'avant de se somatiser dans le corps, une maladie est avant tout une énergie, une émotion qui n'a pas été processée et du coup qui s'est somatisée quelque part dans le corps. Il y a un dictionnaire d'ailleurs là-dessus qui s'appelle le dictionnaire des mots et des malaises de Jacques Martel qui permet justement de venir voir ça. Et je sais que moi, par exemple, quand j'ai une douleur quelque part, quand j'ai une pathologie, quand je lis ça, je sais que c'est toujours très fou comme ça correspond à des situations, à des choses qui viennent résonner profondément en moi. Donc au final, en venant faire ce nettoyage énergétique, avant, on atteint cette partie de prévention. Donc c'est là où en fait on commence à retrouver un petit peu le parallèle entre ce qu'on va observer du fait que physiquement, de façon scientifique, en fait, il a été prouvé que le cambo boostait le système immunitaire parce que ça va augmenter le niveau de globules blancs. Mais aussi, il y a énormément de peptides qui ont été étudiés qui vont avoir des effets sur certaines maladies. Là tout de suite, par exemple, je pense à la dermaseptine, qui est un des peptides qui est contenu dans le cambo, qu'on sait que c'est ce peptide principalement qui va agir sur les cancers, parce que c'est ce peptide, et principalement sur le cancer de mammaire et de la prostate, parce que ce peptide va venir réagir aux protéines contenues dans ces cancers. Et donc on sait que c'est pour ça qu'il y a une guérison derrière. Donc on a vraiment ce parallèle entre ce qu'on va retrouver dans la culture chamanique, on va dire on nettoie le corps, on nettoie les énergies, et sur un plan physique, qu'est-ce qui va se passer dans le corps.
C'est intéressant ton point sur le fait que l'émotionnel, les blessures, etc., émotionnelles que tu peux avoir se somatisent dans le corps et créent potentiellement des maladies. J'avais pas fait cette gymnastique-là dans ce sens-là. Moi, j'ai lu pas mal de trucs sur l'effet placebo, justement, et sur la façon dont tes croyances peuvent conditionner ton énergie, ta guérison, etc. Et ça, c'est pas mal étayé quand même par la science aujourd'hui, même... Il y a même des scientifiques qui ont montré que tes croyances, tout l'environnement de croyances que tu avais, modifiait l'expression même de tes gènes et donc les protéines qui allaient être synthétisées par tes ribosomes, etc. Mais je l'avais pas vu dans l'autre sens et pourtant ça paraît assez logique. Donc c'est une voie que j'aimerais bien creuser. Est-ce que t'as, je sais que tu travailles avec un médecin notamment sur le cambo.
Sur le placebo. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est Joe Dispenza
qui parle
beaucoup du placebo et justement qui parle. Le placebo n'est pas réellement un placebo. C'est la capacité du corps à créer, à activer en fait justement cette mémoire ADN.
Tout à fait.
Si l'ADN était la pharmacie du corps et qu'en fait on avait la capacité de venir activer cette pharmacie qui va libérer que ce soit les peptides, les neuropeptides, les protéines qui sont capables de venir guérir certaines maladies. Donc en fait, parce qu'on a cette notion que l'effet placebo, c'est quelque chose de faux, alors qu'en fait, l'effet placebo serait plutôt la capacité mentale de venir activer en nous notre propre guérison.
J'adore la façon dont tu le décris, ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose de faux, c'est la capacité d'activer certains gènes, certaines hormones qui vont participer à guérir le corps. Et donc effectivement, Joe Dispenza, il a écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes le placebo » ou « Le placebo, c'est vous », qui parle du sujet, qui est très intéressant. Donc je vois qu'on a les mêmes références, c'est chouette. Et justement, est-ce que t'as un petit peu de littérature scientifique, on va dire, sur le cambo. Donc c'est pour ça que je le disais, je sais que tu travailles avec un médecin espagnol. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'intéressent au sujet? Est-ce que tu pourrais me donner des ressources que je pourrais mettre dans l'article lié à ce podcast pour que ceux qui ont envie d'aller creuser un petit peu, puissent, même si c'est pas en français, hein, puissent se rendre compte de l'état d'avancée des recherches et du consensus éventuel scientifique qu'il y a sur le sujet?
Alors, mais il y en a plein. En termes de nom, je pourrais pas vraiment te dire.
Non, mais tu me les envoies par mail et je les mettrai dans l'article lié. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu, tu vois, d'avoir un petit peu plus d'informations. Sur la base scientifique. Ouais. Cool, super.
Le médecin avec lequel je travaille a écrit un livre qui, en espagnol, c'est De médico a chaman.
Okay.
Ah, donc de médecin à chaman, il l'a pas encore traduit, mais justement où il relate en fait tout ce parcours avec les médecines et tout ce qui a pu être observé. Maintenant, oui, il y a énormément, les sources d'informations commencent à être de plus en plus grandes et en même temps pas tant que ça. Et pour la petite histoire, en fait, il y a eu un moment où les laboratoires se sont intéressés au cambo. Et donc, ils ont pris les grenouilles, forcément, ils les ont emmenées en laboratoire. Et ils n'ont pas pu travailler avec parce qu'elles ont arrêté de sécréter. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ma petite grenouille qui se protège elle-même quelque part. Donc, je pense aussi qu'il y a des scientifiques qui s'y intéressent de plus en plus. Et en même temps, ça intéresse et ça intéresse pas à la fois. Mais tout simplement parce que ce serait pas rentable, que c'est impossible de les garder en cage, de les exploiter, donc ça ne va pas avec le système de consommation industrielle pharmaceutique que l'on peut trouver aujourd'hui. Et en même temps, c'est la magie de ces plantes et de ces médecines qui s'auto-protègent d'une façon tellement incroyable que c'en est beau à entendre aussi.
Bah, du coup, ça m'amène une question. Comment est-ce que tu te procures justement toutes ces médecines? Du coup, là, en l'occurrence, par exemple, le cambo, donc tu disais que c'était une grenouille qui vit en Amazonie. Est-ce que c'est encore des peuples, des tribus locales ou autres qui récupèrent le cambo et qui le commercialisent ensuite? Comment, ou c'est toi qui vas toi-même en Amazonie aller chercher les grenouilles et récupérer le cambo dessus? Non, sérieusement, comment est-ce que ça arrive jusqu'à toi qui habite en Espagne et qui fait des retraites en Suisse?
Alors, moi, je travaille uniquement avec des personnes que je connais et dont je suis sûre de la provenance. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'éthique qui est quand même très important. Parce que malgré tout, il y a de plus en plus de demandes, que ce soit dans les pays occidentaux, de ces médecines. Et il y a aussi un maltraitement qui est fait des grenouilles. Elles peuvent être maltraitées pour pouvoir récupérer le poison. Ce qui en général peut se voir aussi à la couleur du cambo. S'il y a des traces de sang, s'il y a quelque chose sur les tablettes, c'est que ça n'a pas été récupéré correctement, que ce soit au niveau hygiène ou au niveau protection de l'animal. Moi, les personnes avec lesquelles je travaille justement sont beaucoup dans cette dynamique-là d'acheter des terres. Pour essayer, alors que ce soit en Pérou ou en Colombie, ça va dépendre de la provenance des médecines. En tout cas, c'est un petit peu le même principe pour toutes les médecines avec lesquelles je travaille, où le but est d'acheter des terres pour pouvoir protéger ces médecines. Donc, que ce soit acheter des terres dans les lieux où on va pouvoir trouver le cambo, que ce soit pour l'ayahuasca, et justement que, ben, du coup, d'une certaine façon, protéger la forêt aussi, éviter que ces terres soient rachetées pour de la déforestation, pouvoir protéger les médecines, pouvoir protéger ces grenouilles. Donc moi, il y a vraiment quelque chose de très important pour moi au niveau éthique. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoient des messages régulièrement en me disant « Hola, elle est pas ligne, tu veux pas m'acheter du cambo ?» Et ça m'intéresse pas, en fait. Je préfère... entre guillemets, d'une certaine façon, je préfère payer mes médecines un peu plus chères et savoir d'où est-ce qu'elles proviennent.
C'est tout à ton honneur. Et d'ailleurs, donc, t'as toute une alchimiste, toute une gamme de médecines. On a cité donc l'ayahuasca, le cambo. Il y a une autre grenouille ou crapaud peut-être plutôt qui est le bouffo, qui lui, par contre, pour le coup, permet une expérience. Psychédélique, je sais pas si psychédélique est le mot, mais en tout cas expérience, l'est clairement la plus puissante que j'ai jamais vécue. C'est vraiment très 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 puissant. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le sujet?
Comment expliquer l'inexplicable?
Exactement. Comment expliquer l'inexplicable? C'est pour ça que je m'y suis pas aventuré.
Mais comme t'aimes bien le côté scientifique des choses, j'ai une vidéo qui est assez sympa là-dessus où ils ont placé un EEG. Un électroencéphalogramme okay. sur une personne pour voir un petit peu ce qui se passe pendant une prise de bouffo. Et en gros, ils se sont rendus compte que ce sont les mêmes zones du cerveau qui vont être activées que certains moines bouddhistes en méditation et en état de conscience très, 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 très étendu. Le bouffo, donc si on reprend le fait que la DMT, et cette molécule qui va être produite massivement par le corps au niveau de la naissance et au moment de la mort. Le bouffon étant l'entéogène le plus puissant au monde connu en ce moment, c'est vraiment celui qui nous fait ce rapprochement le plus fort. Il y a une notion de est-ce que ce serait une expérience de mort imminente sans avoir à passer la frontière. En tout cas, par exemple, le médecin avec lequel je travaille, avant de travailler avec ses médecines, avait fait une expérience de mort imminente. Et la première fois qu'il a fait le bouffon, il a décrit qu'il était repassé à peu près au même endroit. En tout cas, là, ce qu'il avait vu. J'ai eu aussi le cas de quelqu'un qui est venu en retraite avec moi l'année dernière qui m'a relaté exactement la même chose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, quand on dit ça, on commence à activer toutes les peurs. On dit « Oh, you, moi, je veux pas ça. » Mais c'est une expérience qui est juste et vraiment, vraiment extraordinaire. C'est sans rentrer dans quelque chose de religieux, on dit quand même que c'est la médecine qui nous rapproche le plus de Dieu. Donc après on veut dire la Dieu, l'univers, la source, comme ça convient à chacun. Bon, aujourd'hui j'ai plus vraiment de problème avec ce mot là en tout cas ça va venir nous permettre d'avoir une expérience de fusion et de faire tomber beaucoup de choses. On dit que c'est une expérience de lâcher prise totale. Moi qui avais beaucoup de mal à lâcher prise à la base, en tout cas c'est une médecine qui m'a bien accompagnée dans ce processus là j'aime bien dire qu'elle vient faire, c'est un peu la fin du jeu, ça vient faire tomber les masques. On voit un petit peu le théâtre. Je sais que j'ai eu l'occasion de voir ça un petit peu en voyant la pièce de théâtre qui se joue, les rôles que chacun joue et les âmes, des fois, qui sont mortes de rire des situations qui peuvent se créer pour venir nous montrer certaines choses.
Ouais, je pense que lâcher prise est un très bon qualificatif pour cette médecine. Je vais raconter en deux mots quand même comment ça se prend. Donc c'est une petite pipe en verre, c'est ça que tu brûles, et donc tu prends une aspiration qui est très longue, qui dure 13 secondes. Et en fait, en tout cas pour ma part, j'étais entre guillemets défoncé avant d'avoir terminé de tirer dessus. Et heureusement, t'es en tailleur, du coup t'as un matelas derrière toi et puis tu peux directement t'allonger parce que en fait ton corps répond plus. Et moi, ma première ça dure pas très longtemps, je pense que ça dure une demi-heure peut-être au total, et peut-être que mes cinq premières minutes ont plutôt été sur de la lutte, tu vois. Je sens que mon corps, il essayait de combattre ça, il sentait que c'était pas bon pour lui et il essayait vraiment de se battre, tu vois. Et puis après, par contre, c'était la renaissance, quoi. J'avais l'impression d'être un bébé. Et quand tu parles de lâcher prise, c'est très très vrai, parce que plus tard, vers la fin de l'expérience, j'ai senti mon mental qui revenait et j'ai vraiment senti, tu vois, revenir à l'assaut. Et puis moi, j'étais là, je disais non, dégage, laisse-moi tranquille, je suis trop bien là, laisse-moi profiter de cet état de béatitude, de pureté, tellement pureté, c'est vraiment le truc que j'ai ressenti le plus, tu vois. J'étais dans un état de perfection, tu vois, de plénitude, mais tellement immense. Et puis là, au bout d'un moment, t'as le mental qui revient, qui essaie d'analyser en disant qu'est-ce que je ressens, comment je suis, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est encore là, etc., tu vois. Et puis toi, t'es là, tu dis non, laisse-moi tranquille, je suis trop bien. Et mais non, c'est une expérience, c'est vrai que c'est une expérience dingue. Mais donc voilà, j'avais quand même envie de partager en deux mots un petit peu à quoi ça ressemble. J'aimerais bien qu'on termine.
Juste rajouter quelque chose, parce que pour moi, c'est toujours compliqué de parler des expériences avec les médecines, parce que chaque expérience est tellement unique et personnelle pour chaque personne.
Tu fais bien de le préciser.
Par exemple, toi, tu as vécu ça, tu as vu, il y a une autre personne pendant la retraite qui rigolait, mais qui le lendemain a voulu refaire l'expérience et qui finalement n'a pas rigolé du tout, parce qu'elle est repartie dans toutes ses mémoires d'enfance et dans tout ce qui lui était arrivé quand elle était enfance, avec des compréhensions très profondes et des souvenirs de choses qu'elle avait complètement oubliées, mais qui expliquaient énormément de choses qu'elle vivait actuellement. Donc l'expérience est vraiment très très personnelle, et ça sur n'importe quelle médecine. On dit que l'expérience est complètement personnelle et irrépétible, dans le sens où on n'aura jamais, 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 jamais deux fois la même expérience. Moi, je peux pas dire combien de sessions j'ai faites, que ce soit de bouffo, d'ayahuasca, de cambo. En tout cas, je sais que je n'ai jamais eu deux fois la même expérience. Des fois aussi, j'aimerais bien la revivre, celle-là. Non, ça n'y arrivera pas. C'est aussi unique qu'une journée est unique.
Ah, tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, on s'en est bien aperçu, notamment pendant les phases d'intégration, quand on échangeait sur ce qu'on avait vécu. Chaque personne avait toujours vécu des choses extrêmement différentes, et pour autant, on était tous capables de comprendre un petit peu ce que les autres avaient vécu. Et moi, du coup, j'ai vécu 5 expériences différentes, je dirais, 3 avec l'ayahuasca, une avec le bouffo et une avec le breathwork, qui en réalité est simplement un atelier de respiration sur lequel on prend aucune substance. On en reparlera après parce que j'ai trouvé ça extrêmement puissant et très très intéressant. Mais du coup, pour revenir à cette diversité d'expériences, c'est assez comique d'ailleurs. À la fin du deuxième soir, peut-être le lendemain matin, du troisième jour, je me suis dit, tu vois, c'est bon, j'ai tout compris, je suis tellement rempli, etc. J'ai pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Et en réalité, j'avais pas encore atteint l'apothéose, tu vois, et le troisième soir l'a été, mais donc c'est vraiment intéressant de voir aussi cette évolution. J'en parlais un petit peu plus au début de ce podcast, mais cette évolution, et je pense que c'est vraiment important et très bien que tu le fasses sur 3 jours, parce que ça te laisse le temps. J'ai l'impression que plus tu ouvres ton cœur, plus tu laisses tomber tes barrières mentales, plus tu peux aller loin aussi dans l'expérience, tu peux aller loin dans cette beauté, et ça vaut vraiment le coup d'aller explorer tout ça, quoi.
Ça m'a fait rire quand tu disais j'ai tout compris, parce que juste la retraite juste avant, justement, j'ai quelqu'un qui, en sortant du bouffo, sort et il me regarde et me fait ça y est, il dit j'ai tout compris, et c'est tout, et je laisse partir avec ça, et je regarde la personne qui facilite avec moi et je dis oui, la prochaine étape c'est quand il va venir me voir et me dire qu'il a absolument rien compris. Parce que c'est ça, au final, c'est cette espèce de paradoxe à un moment qui s'ouvre entre je sais tout, je sais rien, et je sais tout et je ne sais rien à la fois. Et c'est le moment où en fait il n'y a plus de oui ou non, de bien, de mal, c'est bien et c'est mal à la fois, c'est oui et c'est non à la fois, et on se rend compte qu'en fait il n'y a pas une réalité, une vérité, mais des vérités. Et qui sont toutes vraies en même temps. C'est un peu, tu sais, l'histoire de ce 6 et ce 9, et du juste un changement de perception va te donner une vision complètement différente des choses. Et personne n'a réellement tort, au final.
C'est vrai, et d'ailleurs, j'ai été surpris quand je suis arrivé de constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui avaient déjà participé à une retraite. Moi, j'avais, dans ma conception des choses, j'imaginais que c'était plutôt le genre de choses que tu faisais une fois dans ta vie, et puis après, c'est bon, tu vois, tu l'as vécu, et puis t'as pas spécialement besoin d'y retourner. Et pour autant, bah, je me suis aperçu que c'était un processus qui pouvait être plus long pour certaines personnes, et en même temps, tu vois, bon, si je prends mon cas personnel, d'un côté, j'ai l'impression d'avoir compris l'essentiel en tout cas vis-à-vis de moi, et pour autant je serais très content d'y retourner une fois de temps en temps, simplement pour me prendre un bain d'amour, tu vois. Je vois vraiment comme ça, tu vois, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que c'est juste pour se faire du bien, tu vois, parce que c'est beau de vibrer comme ça avec des gens et de les aimer sincèrement et de sentir leur amour en retour. Enfin, c'est, tu le ressens vraiment, et c'est quelque chose de, j'en parle beaucoup de cette notion d'amour, hein. Ça peut peut-être paraître bizarre aux auditeurs qui l'ont pas vécu, mais faut vraiment le vivre pour le comprendre, et c'est très très puissant, c'est tellement beau que t'as envie de le revivre pour ça. Mais pour autant, est-ce que toi tu considères que c'est un travail justement qui se fait un petit peu sur le long cours, où il est intéressant d'y retourner tous les ans par exemple, ou tous les 2 ans pour poursuivre le chemin, ou parce qu'on évolue entre temps aussi dans nos vies, dans nos réflexions, et que du coup on peut avoir besoin d'aller chercher de nouvelles réponses, ou bien c'est simplement que le voyage de certaines personnes ou le processus de certaines personnes est plus long, et une fois qu'ils ont atteint le point qui devait une fois qu'ils ont réglé entre guillemets leurs problèmes, leurs souffrances, qu'ils sont arrivés là où ils devaient arriver dans leur chemin, ils ont plus besoin d'y aller pour le reste de leur vie.
Alors il y a plusieurs choses dans cette question, parce que pour moi les médecines ne doivent pas être une quelque chose dont on est dépendant. On n'a pas besoin des médecines. Elles sont un accélérateur, mais sur le principe, on n'en a pas besoin. Les médecines ne sont pas seulement là pour aller travailler les traumatismes et pour aller travailler tout ce qui ne va pas. Parce qu'au final, il y a un moment où on a plus de choses qui ne vont pas. Ou entre guillemets, il y a la plupart des choses, on les a épurées, donc elles sont moins lourdes dans notre vie quotidienne. Il y a un moment où, en fait, avec ces médecines, on va aller directement dans le potentiel. Personnellement, pour moi, par exemple, ta retraite et ton expérience n'a pas été spécialement dirigée et été dirigée au traumatisme. Alors peut-être que si tu revenais, il y aurait d'autres choses qui viendraient. Mais en tout cas, tu as été beaucoup plus sur le potentiel au final. Et le potentiel humain, il est illimité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut venir à une retraite tous les mois. Et de toute façon, moi, c'est quelque chose auquel je fais assez attention aussi. C'est pour ça aussi que j'ai des personnes qui viennent des fois sur la cuisine et qui viennent parce que, en fait, je vois très bien des personnes, c'est pas vraiment pour venir vite prendre de l'ayahuasca qu'elles veulent venir. Elles veulent juste être là. C'est pas plus compliqué que ça. Elles veulent juste être là. Elles veulent juste venir partager ce moment. C'est des fois, je le dis en rigolant. Je dis, je vais arrêter de donner de l'ayahuasca et je vais vous monter une colonie de vacances pour adultes.
C'était un concept, hein, remarque.
Mais c'est un peu ça. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est juste de comprendre qu'on vient pas ici que pour prendre de l'ayahuasca. J'ai des personnes aussi qui me disent et qui veulent venir à la retraite et qui viennent sur la retraite, mais qui veulent pas prendre de médecine. Parce que c'est pas une utilité, ou en tout cas, c'est pas un prérequis. Alors, quelqu'un qui n'a jamais pris d'ayahuasca, qui me dirait qu'il veut venir sur une retraite, non. Parce que là, on rentre dans l'intimité des autres, et en fait, ça fait un peu, moi, j'ai peur, je veux pas, je veux venir regarder comment ça se passe. Non. Ça, c'est pas possible. Mais j'ai des participants qui ont déjà fait des retraites avec moi, et qui veulent être là, et je sais qu'ils viennent pas dans cet état de voyeurisme, entre guillemets, mais vraiment pour partager ce moment avec tout le monde, et pour moi, c'est complètement OK. Après, il n'y a aucune nécessité à revenir sur une retraite si on n'en sent pas le besoin, si on n'en sent pas l'envie. Il y a des personnes qui viennent sur une retraite, on ne va pas en entendre reparler avant 10 ans. C'est vraiment quelque chose qui est très très personnel. Donc je peux pas. C'est vraiment, ouais. S'il y a pas vraiment de réponse à ça, parce que ça va vraiment dépendre de chacun. J'ai des personnes qui vont venir pendant un an, qui vont venir 2-3 fois sur une année, parce qu'il y a un gros besoin, il y a beaucoup de choses à travailler, elles sentent cet appel, et après, je ne les revois plus pendant 2-3 ans, mais on reste en contact. C'est ce que je te disais par rapport à l'accompagnement thérapeutique, c'est que moi, ça se fait avant, pendant et après. Et entre guillemets, il n'y a pas de limite de temps. C'est que moi, j'ai des personnes que je vais avoir au téléphone 2-3 ans après, et en fait, je continue à suivre, en fait, le processus de ces personnes. Parce que au-delà des retraites, pour moi, il y a quand même un côté, c'est du relationnel humain. C'est une expérience humaine qu'on vit ensemble. Et pour moi, c'est chaque conversation. Ça m'a jamais vraiment intéressé de dire tiens, on va prendre un rendez-vous et puis je vais te coacher pendant une heure. Non, viens, on va avoir une conversation d'humain à humain et puis je vais t'accompagner parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Mais en tout cas, d'humain à humain.
Et comment est-ce que tu arrives quelque part à transposer toute cette énergie, tous ces enseignements, autant tu vois sur les blessures que tu arrives à mettre à jour et du coup à guérir par l'ayahuasca, ça c'est quelque chose qui s'inscrit pas dans le temps, je veux dire, une fois que tu l'as guéri, t'as plus besoin d'y repenser tout le temps. Par contre, pour tout ce qui est cette notion justement de d'amour, etc., de laisser plus le cœur s'exprimer, de vivre plus ses émotions, etc., est-ce que tu as des outils que tu peux partager et qui permettent de conserver, on va dire, les effets de ce que tu as appris lors de cette retraite dans ta vie quotidienne, lorsque tu te reconfrontes au monde qui, lui, a pas vécu cette expérience-là et potentiellement fonctionne de façon complètement différente?
Alors, pour moi, le monde n'existe pas, dans le sens où l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, quand tu te changes à l'intérieur, ton extérieur change. Et en fait, il y a toujours cette croyance de les autres. Et ça, c'est comme ça qu'on crée notre réalité. C'est, moi, j'ai vécu ça et pas les autres. Donc, on ne me comprend pas. Mais en fait, c'est déjà cette croyance qui va créer cette réalité-là. Moi, je le vois parce qu'au tout départ, quand j'ai commencé à travailler avec ces médecines, je ne voyais pas comment j'allais expliquer à quelqu'un que je travaillais avec de l'ayahuasca. Enfin, c'était... Et aujourd'hui, mais que ce soit n'importe où, j'ai quelqu'un qui vient me chercher, je prends mon taxi pour aller à l'aéroport, je parle d'ayahuasca avec la personne dans le taxi. Et j'ai été faire 2-3 courses tout à l'heure et puis je me suis retrouvée à parler ayahuasca avec la personne dans le magasin. Mais en fait, ça se fait de façon totalement naturelle. Et j'ai eu des moments où quand j'en parlais, les personnes me regardaient de façon un petit peu spéciale, du genre, oulala, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle s'est reconvertie en dealeuse de drogue ou qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis en fait, j'ai réalisé que c'était juste le reflet de mes propres jugements et de mes propres peurs par rapport à moi. Et depuis qu'il y a quelque chose qui s'est centré en moi, ben en fait, je peux le partager avec n'importe qui. Et c'est la même chose en fait dans notre vie, c'est juste réintégrer l'autre. C'est pas parce que l'autre il a pas vu il n'a pas fait ses expériences, qu'il n'a pas une âme, qu'il n'est pas spirituel et qu'il n'a pas cette connexion. Mais en fait, c'est juste ça, se connecter de cœur à cœur avec les personnes. Après, par rapport au travail qu'il y a à faire pendant les sessions, quand on rentre dans sa vie tous les jours, ça va être quelque chose de très personnel en fonction du processus qu'on a vécu. Parce qu'au final, les clés, on les a. C'est par rapport à ce qu'on expérimente, on a les clés. Où ça nous montre comment agir, comment... Par exemple, je pense à une conversation que j'avais juste avant avec, juste avant que je t'appelle, en fait, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui était à la dernière retraite. Et il me disait que, lui, dans son processus, à chaque fois, il arrêtait pas de voir comment sa pensée créait sa réalité. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a vécu pendant toute la session, où il voyait comment, dès qu'il changeait son énergie et que ses pensées passaient d'une à l'autre, comment ça changeait sa réalité directement. Mmh. Et donc là, en fait, là, lui, son travail, c'est de faire une observation de ses pensées dans sa vie réelle pour voir comment c'est lui qui manifeste les choses qui sont autour de lui. Donc ça, c'est son travail à lui. Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu un moment où il fallait vraiment que j'utilise ta gueule à mon mental. Je le dis comme ça parce que c'est exactement comme ça que ça s'est manifesté dans une session où, en fait, j'avais mon mental très, 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 très intelligent. Tu sais, plein de blabla, en tout cas, le mental qui mettait plein de choses ensemble et puis qui arrivait à tout analyser de façon très, 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 très fluide et très, très intéressante en plus, parce que c'était pas inintéressant. Et en fait, j'ai eu ce moment où il y a quelque chose en moi qui a regardé ça, qui a dit ta gueule pour voir. Et je suis rentrée dans un espace de silence en moi qui a ouvert d'autres portes. Et donc moi, mon travail après cette retraite, ça a été de me rappeler de ça et de voir comment mon mental, en fait, dans ma vie tous les jours, des fois partait dans des suranalyses de tout et juste revenir au centre et silence.
Oui, c'est quelque chose qui me parle pas mal aussi. J'ai plutôt tendance à être comme ça. Et par ailleurs, sur cette notion de ton monde intérieur influence le monde extérieur, et donc au final, c'est toi qui crée ton monde parce que t'es à l'intérieur. Ça, c'est un truc dont j'ai vraiment pris conscience aussi pendant cette retraite, qui est que l'intention derrière ce que tu fais ou ce que tu dis a une importance. Tu vois, parfois, tu dis je t'aime, par exemple, machinalement, ou tu fais les choses par automatisme. Et sans réellement y penser. Ben en fait, il y a une espèce de charge émotionnelle, de charge vibratoire, de charge énergétique, je sais pas comment la qualifier, qui modifie peut-être qui module le son de ta voix, qui module tes gestes, qui va moduler la façon dont tu vas bouger ton corps et donc qui va moduler la façon dont ça va être perçu par l'autre. Et donc en fait, en fonction de l'intention que tu mets dans ce que tu dis, de la sincérité aussi que tu mets quand tu parles, etc., t'influences clairement la façon dont le monde autour de toi va réagir et même dont ton propre corps réagit. Tu sais, moi j'aime beaucoup le sport par exemple et on parle de pratiques délibérées, etc. Et donc le fait de faire quelque chose, un mouvement en conscience, t'as une qualité de mouvement, une qualité d'intégration, de connexion avec ton corps qui est complètement différente. Et donc tu vois, c'est un petit peu la même chose, sauf que la pratique délibérée, ça va être par rapport ou la conscience corporelle, ça va être par rapport à ton propre corps, tandis que l'intention dans ce que tu dis, ça va être dans ton interaction avec le monde extérieur. Mais c'est le même type de mécanisme en réalité qui est à l'œuvre. Et quand t'as compris ça, tu te rends compte que c'est important de laisser tes émotions, ce que tu ressens au fond de toi, ton cœur en réalité, s'exprimer à travers ton mental. Tu vois, pas seulement laisser ton mental dire ce qu'il faut dans telle situation parce que c'est ce qui est attendu de toi et que automatiquement tu sais que c'est ce que tu dois dire. Comme un bonjour, par exemple, quand tu croises quelqu'un, tu y réfléchis pas, tu vois, tu le conscientises pas, c'est ton mental qui sait que, non, c'est même plus le mental, là d'ailleurs, c'est presque un réflexe, tu dis bonjour. Mais ce bonjour-là, tu pourrais très bien lui mettre toute une charge émotionnelle d'amour, etc., de bienveillance, en te disant un vrai bonjour avec plaisir et bonheur de rencontrer la personne. Et la personne en face, elle sera touchée complètement différemment par ce bonjour. Et donc, elle va réagir aussi grâce à ça, tu vois, touchée par cette énergie chaleureuse. Elle va déjà potentiellement passer une bien plus belle journée. On sous-estime parfois la force d'un sourire ou d'un sentiment positif à quelqu'un que tu croises dans la rue qui peut-être a une journée de merde et déprimé. Et le simple sourire que tu lui auras donné en le croisant dans la rue va métamorphoser sa journée en se disant que le monde est pas si moche. Ou pareil, la caissière qui en a marre de son boulot et si t'es un petit peu sympa avec elle, tu peux égayer sa journée. Donc on a tous, en réalité, ça me refait penser, j'en parlais samedi dans un autre podcast que j'ai enregistré, parce que sur la route du retour de notre retraite, j'ai écouté un livre audio, Les 4 accords Toltec, qui est assez connu. Et justement, le premier accord, c'est de dire que ta parole soit vraie ou que ta parole soit sincère, je sais plus très bien. Mais ce qui est surtout intéressant derrière ça, c'est qu'il dit que la parole est un pouvoir magique. Et ça peut être de la magie blanche ou de la magie noire. On a tendance à oublier tout le pouvoir qu'on a avec notre parole. On peut rendre le monde tellement plus beau, tu vois, simplement en faisant attention à ce qu'on dit. Et même faire attention, c'est même pas tout à fait le mot juste, mais en utilisant à bon escient cette capacité qu'on a à émerveiller le monde grâce à notre parole, tu vois. Et ça nous demande même pas forcément un effort supplémentaire, il suffit juste d'en prendre conscience et de se dire que dans chaque situation, potentiellement, t'as ta part à jouer, tu peux percuter l'autre pour lui permettre d'avoir une plus belle expérience de vie.
C'est ce que j'appelle le script. C'est le script avec lequel on crée notre réalité. Et c'est très drôle que tu parles de ça parce que je me suis retrouvée à en parler deux, trois fois ces deux, trois derniers jours avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées où j'écoutais leur script et comment ils étaient en train de nous raconter. Donc ça va être des choses genre les gens sont comme ça. Par exemple, j'avais quelqu'un, rien qu'aujourd'hui, je suis dans une boutique de pierre et la personne me dit que elle aimerait beaucoup rencontrer. Alors, je te préviens juste que je viens d'entendre que mes écouteurs sont en train d'être en mode batterie faible.
Ouh là là, ça va être difficile ça. Et du coup, il nous reste combien de temps?
Je sais pas. Je te dis, on va continuer et puis, mais je pense que ça ira. Je vais bien trouver une solution.
Ouais, sinon je vais accélérer sur la fin.
Donc voilà, donc en étant dans cette boutique. La personne me dit, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, pour m'aider, mais je trouve personne. Les gens veulent pas travailler et ceci et cela. Et je commence à écouter son script et je lui dis, vous êtes en train de créer votre réalité avec votre script. Et je lui dis, je ne sais pas à combien de personnes vous avez raconté le même script, mais ce script, c'est vraiment votre manifestation. C'est écrit, vous l'écrivez, vous le répétez. Et il a explosé de rire et il m'a dit mais c'est pas possible, il dit mais c'est exactement ça, il dit effectivement j'ai raconté la même chose à plusieurs personnes. Il dit mais voilà, il n'y a plus qu'à changer le pouvoir de vos mots et à changer ce script, et ce script va changer votre réalité. Dans le groupe aujourd'hui c'est pareil, j'ai dans le groupe qu'on a d'après retraite, je parlais du je suis. Alors ça vient de livre que je suis en train de lire en ce moment de Neville Goddard. Et il parle de « je suis » comme étant le nom de Dieu. Mais en fait, oui, ce « je suis », qu'est-ce que je suis? Comment est-ce que je me décris? Que ce soit « je suis fatiguée »,« je suis triste »,« je suis déprimée », ou « je suis joyeux »,« je suis abondant »,« je suis heureux », enfin, tout. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi ce script? Et à partir du moment où on rentre dans ce point de vue observateur et qu'on arrive à s'écouter un petit peu parler, à écouter ce qu'on vibre, on va voir en fait ce qu'on est en train de manifester et depuis quel lieu.
Ouais, bah écoute, c'est super intéressant parce que c'est vrai que j'évoquais ce pouvoir de la parole dans son interaction avec le monde extérieur et la façon dont il le conditionnait à réagir plus ou moins positivement. Mais en réalité, ce discours, il a aussi une importance tout aussi grande et même plus importante avec soi-même. Et donc, le discours intérieur qu'on se raconte est un peu auto-réalisateur. Donc, si tu te dis, par exemple, je chante mal, ben, tu chanteras jamais bien et tu t'autoriseras même jamais à essayer de chanter simplement parce que t'as cette croyance limitante qui te dit je chante mal. Donc c'est clair, c'est vraiment très intéressant d'essayer d'être observateur justement de ces scripts comme tu les appelles pour justement les en prendre conscience. Déjà c'est une bonne première étape et puis après les réécrire en fonction de ce qu'on a envie de faire.
Mais même tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que justement quand maintenant tu penses au chant, je me rappelle ce que j'étais juste en train de penser avant, c'est par rapport à l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Mais quelque chose que j'ai vu avec le chant, et c'est très très drôle, c'est au tout départ quand j'ai commencé à chanter, alors je voulais qu'on me voie, je voulais que ma voix soit belle, c'était depuis ce lieu-là que je chantais. Résultat, c'était bien, mais c'était pas encore exactement, ça vibrait pas complètement. Et je sais que le moment où ma voix, elle porte réellement dans les cérémonies, c'est le moment où je suis centrée en moi et que je le fais pour moi. Et là, il y a quelque chose de complet qui se passe et qui est juste extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire.
Faire quelque chose sincèrement avec le cœur, de toute façon, je pense que c'est difficile de décrire à quel point ça peut être beau et merveilleux, et on aspire tous à ça au final. On va essayer d'accélérer pour la fin, du coup, histoire de pas être coupé en plein podcast. Il y a juste un dernier sujet que je voudrais quand même qu'on aborde, c'est ce briefwork. J'ai trouvé que c'était, donc le briefwork, c'est simplement un atelier pendant lequel, pendant une demi-heure, on respirait. Donc en soi, quelque chose de rien d'incroyable. Et pour autant, j'ai atteint un état de transcendance du corps par l'amour, tout simplement incroyable, d'une puissance folle qui m'a réellement surpris. Je me demandais si le fait que les deux trois séances d'ayahuasca avant ont permis cet état par le fait qu'elles m'ont ouvert à mon cœur et qu'elles m'ont permis justement de un lâcher prise plus important, ou bien est-ce que tu penses que ça marche pour n'importe qui sans contexte particulier, que n'importe qui peut le reproduire chez lui sans avoir eu cette première expérience qui lui permet de se reconnecter facilement à cet état particulier?
Alors, déjà, c'est possible de le faire chez soi. On peut avoir de très, très belles expériences chez soi. Moi, je le fais régulièrement. Maintenant, que ce soit pour n'importe quoi, la puissance du groupe, il y a quelque chose. C'est ça ne sera jamais pareil. Et pour moi, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir avec l'ayahuasca. C'est vraiment la puissance du groupe. Si tu décides d'aller faire une retraite breathwork quelque part, tu vas avoir ce côté où, en fait, la puissance du groupe et les facilitateurs, tout le monde t'emmène. Parce que quand on est chez soi, il y a un moment où on va la ralentir, la respiration, et puis on va être mal, donc on va bouger. Vous n'allez pas aller aussi loin que ce qu'on vous pousse, en fait, dans cette respiration, du fait que vous êtes accompagné.
Non, c'est vrai, la force du groupe était très puissante, et puis même de vous qui veniez, tu vois, je ressentais votre bonté, votre amour aussi, etc. Il y avait Léo à un moment qui m'aidait à respirer en me faisant le mouvement avec ses mains sur mon corps. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a toute cette espèce d'émulation collective qui fait que mais t'arrives à un état vraiment vraiment incroyable, quoi. C'était tellement puissant, tellement beau aussi. Est-ce que peut-être que ça je veux dire tout parce qu'il y a plus, j'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques de respiration, etc. J'ai regardé un petit peu les différents briefwork. Est-ce que celui que tu nous as fait faire a un nom particulier, ou est-ce qu'ils se valent un peu tous au final? C'est pas tant la respiration qui est importante, c'est plus ou moins toujours les mêmes fondations, fondements, et on, quel que soit celui qu'on choisit, on aura potentiellement cette même expérience.
Non, alors en fonction de celui qu'on choisit, on va atteindre des choses différentes. Si tu te rappelles, par exemple, j'avais dit à une des personnes qui avait un problème au niveau de la cage thoracique parce qu'il avait des fêlures, de faire une respiration différente qui lui a donné une expérience, mais qui a été quand même moins intense que ce que vous avez vécu. Là, celle que je vous ai fait faire, c'est une des plus intenses, en fait, en termes de respiration, et qui va vraiment venir chercher à relâcher de la DMT dans le corps. En fait, le breathwork est une méthode pour relâcher de la DMT naturellement dans le corps.
Et il s'appelle comment du coup?
Celui-là. Alors je pourrais pas te dire exactement le nom.
OK. Bon, si tu as une vidéo peut-être guidée qui permettrait de le faire chez soi, ou alors que tu connais d'autres gens qui proposent ce genre de choses en France, je suis assez intéressé par le sujet, et je pourrais mettre ça en ressource dans l'article lié, pour ceux qui ont envie de vivre quand même cette expérience de trans qui est incroyable, qui est tellement belle, et qui auraient pas envie de passer tout de suite le pas de l'ayahuasca, quoi.
Alors, les sources francophones, je suis super désolée, mais c'est compliqué pour moi, parce que vu que je vis en Espagne, et en fait, je suis plus sur les sources anglaises et... après voilà, sur YouTube, très honnêtement, il y en a beaucoup. Je regarderai une qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait, et je t'enverrai une vidéo. Je vais essayer de regarder ça ces prochains jours et t'envoyer quelque chose de sympa. Ouais.
Il y a un autre outil que je trouve intéressant qui a été proposé par Léo, je crois, sur la conversation justement qui suit la retraite, parce qu'il y a une espèce de groupe WhatsApp où tu mets à tous ceux qui ont participé à des retraites, et chacun peut échanger, partager, etc. Bon, il y a beaucoup d'activités, donc j'avoue que je lis pas 5% des messages parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas c'est beau qu'il y ait cet espace d'échange, et donc Léo a proposé qu'à 8h, à midi, à 22h, pendant 2 minutes, on ferme les yeux, on se reconnecte à notre cœur, aux gens qu'on aime, aux gens avec qui on a partagé cette retraite. Et du coup, je le fais quand je peux. Et c'est tout con, hein. Et ça, je pense que chacun peut le faire facilement chez lui. Tu vois, ça prend 2 minutes. Tu fermes simplement les yeux, tu te connectes à ton cœur, tu penses aux gens que tu aimes. Et je trouve que C'est con, hein, mais ça fait du bien, en fait, simplement de penser aux gens que tu aimes. Et c'est bête à dire, hein, mais tu le fais jamais dans ta journée. T'as toujours du travail, etc. Enfin, moi, en tout cas, je prenais jamais le temps de me poser comme ça 2 minutes et simplement visualiser ma fille, ma femme, ma mère, mon frère, mes amis, vous, me reconnecter à ce qu'on a vécu, sentir mon cœur qui bat. Bah, c'est un truc tout con, mais tellement agréable. Donc, j'avais envie de partager cet outil que vous nous aviez proposé, enfin, que vous nous avez proposé plutôt. Et à nos auditeurs. D'ailleurs, il y a d'autres outils peut-être comme ça que toi tu utilises, que tu trouves intéressant.
Il y en a tellement.
Bon, on va faire un deuxième podcast sur le sujet.
ouais, non, mais on pourrait. En fait, c'est. Alors là, très clairement, je n'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Mais je sais que sur les retraites, au final, jamais je fais les mêmes choses. J'utilise énormément de choses différentes, d'outils. C'est pour ça que les retraites, il y a quand même une grande part de mystère et d'improvisation, en fait. Enfin, qui n'est pas vraiment d'improvisation, c'est du ressenti. C'est pas que je vais ressentir qu'à ce moment-là, il y a telle dynamique qui serait intéressante, tel exercice. Cette fois-ci, ça va être du breathwork où je vais m'inspirer, je vais avoir une idée de faire un mélange de plusieurs choses en même temps et qui peut être reproduit à la maison. Ouais, je pense que là, les deux de la dernière retraite, pour moi, déjà, si on arrive à faire de temps en temps quelques respirations de type breathwork chez soi, à la maison, et juste cet espace méditatif, au final, ce qui avait été proposé par Lio, c'est 2 minutes. C'est rien, 2 minutes. Mais même lui, il l'a admis que c'est difficile parfois de se les prendre, ces 2 minutes pour ne rien faire. 2 minutes pour mettre un stop au mental. Et donc, je trouve que déjà, rien que ça, si ça peut être maintenu, après, on peut commencer à venir à intégrer d'autres choses. C'était pas l'intégration qu'on a refaite hier, parce que on en a refait une hier, mais je vais vous proposer, là, pour tout le mois prochain, de faire 25 jours, donc ça va être un peu le calendrier de l'Avent, en fait, 25 jours de méditation jusqu'à Noël, qui serait plutôt comme des espèces de petits mantras. Donc, on va rester sur cet espace de cœur de 2 minutes, de se connecter, de revenir à soi, mais aussi de prendre ces 3 fois par jour, de répéter certaines phrases. Donc, je vais vous envoyer toute une liste de phrases pour un mois, justement dans le thème de venir créer sa réalité avec le « je suis » et le script, et de venir changer ce script. Donc, que ce soit « je suis amour », »,« je suis abondance », bon, je vais essayer d'être un peu plus originale que ça. Comme on en a parlé hier, je ne l'ai pas encore travaillé. Mais en tout cas, l'idée m'était descendue hier, et à voir comment est-ce qu'on peut manifester une réalité différente en changeant son script.
Bah, tu
et en plaçant des choses intéressantes dans le script.
Non, c'est intéressant, mais tu parles d'originalité. Parfois, justement, c'est un des trucs aussi que j'ai compris, c'est... Tu vois, on cherche toujours à aller plus loin, enfin surtout moi, être une meilleure version de moi-même, etc. Mais il y a des choses, en fait, le truc le plus important, il est hyper simple et ça reste cet amour de soi et cet amour des autres. Et enfin, tu vois, t'as pas forcément besoin d'être compliqué pour dire des choses qui sont vraies et importantes. Et d'ailleurs, les choses importantes sont pas toujours les choses compliquées. Je voulais juste te redire un petit truc. Si, voilà, par rapport à la méditation, parce que moi, j'aime bien méditer entre 10 et 20 minutes le midi avant de manger. C'est ma petite coupure, tu vois, dans la journée, ma petite pause. Et en plus, ça m'évite d'avoir un coup de pompe l'après-midi, donc c'est hyper, hyper vertueux au passage. Et depuis justement cette retraite, je trouve que je médite beaucoup mieux, entre guillemets, si tant est qu'il y a une bonne façon de méditer, parce qu'en réalité, il y en a pas vraiment. C'est un moment que tu passes avec toi-même et... Tu vois, c'est pas comme un exercice. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'arrive vraiment à beaucoup mieux à comprendre la différence entre moi et mon mental. Tu vois, avoir cette espèce de différenciation comme si c'était 2 entités différentes, même si elles cohabitent dans un même corps et dans un même esprit. Et du coup, je trouve que j'ai beaucoup plus facile à méditer, ou en tout cas, j'ai des beaucoup plus belles méditations depuis cette expérience. Donc, je voulais partager ça avec toi puisque tu parlais de méditation. Pour terminer un peu ce podcast, est-ce que tu... alors, ça, c'est une nouvelle question que j'ai introduite depuis mon podcast avec Maxime Barbier, qui avait fait une bucket list des 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir. Est-ce que tu aurais 3 rêves que tu as envie de réaliser, ou 3 expériences que tu as envie de vivre et que tu aurais envie de nous partager?
Mmh. Trois seulement. Alors, c'est un rêve que j'ai pas encore réalisé, mais honnêtement, quelque chose d'assez important pour moi, du fait que je travaille depuis très longtemps avec le calendrier Maya. Je pense qu'on n'a pas plus de 5 minutes parce que ça vient de ressonner. Donc, à mon avis, ça va être très court.
Ok, bah 5 minutes, ça sera parfait.
Ok. Donc, ça fait longtemps que je canalise le calendrier Maya et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les pyramides Maya.
Ok.
Et il y a quelque chose que j'ai vraiment en tête avec ces histoires de pyramides et ce champ énergétique entre les différentes pyramides qu'on va trouver en Inde, chez les Mayas et chez les Égyptiens. Et ça, c'est comme si j'aimerais bien faire ce cycle. Ensuite, quand j'ai commencé à faciliter l'ayahuasca, j'ai eu une vision en fait de la Terre avant la séparation des continents. Et j'avais eu une vision qu'il fallait que j'emmène l'ayahuasca en Afrique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et que j'emmène l'iboga, qui est la médecine de mon pays, parce que je suis née au Gabon, l'emmener en Amérique latine. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Je ne sais pas comment ça se concrétisera, mais je sais que ça fait partie, entre guillemets, des choses qui me tiennent à cœur. Et la troisième chose, alors ça va peut-être paraître très 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 banal pour certains, mais c'est vivre pleinement l'amour inconditionnel. C'est quelque chose, c'est comme un objectif de vie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me tient aux tripes, qui est quelque chose qui me fait tellement vibrer, et c'est quelque chose que j'aspire profondément à vivre dans cette vie.
Magnifique.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un livre que tu aurais envie de m'offrir et un prochain invité que tu me recommanderais d'inviter?
Un livre. Soufi, mon amour.
Soufi, mon amour?
Ouais, de Elif Shafak.
Ok, je connais pas du tout.
Et ça, écoute, je pense que ça va beaucoup te plaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et un invité, qui est-ce que...
Si tu as, hein, comme tu as plutôt des sources espagnoles ou anglaises.
Ouais, je suis un peu, ouais, là, je pourrais pas, justement, parce que j'étais en train de dire chez les francophones, encore chez les espagnols, je pourrais dire plusieurs personnes, même anglophones, mais alors là, je peux pas te dire en français.
Bon, c'est pas grave du tout. Et pour terminer, du coup, si on veut participer à une retraite, comment est-ce qu'on te contacte? Est-ce que t'es joignable facilement ou est-ce qu'on voit les prochaines dates, éventuellement, si tu veux le partager, combien ça coûte?
Alors, les retraites, du coup, on peut les voir sur la page Cambothérapie. Je
Je
mets
mettrai le
toutes les
lien.
dates des prochaines, ouais, je mets toutes les dates des prochaines retraites. Les tarifs, je préfère que les gens me contactent.
On te contacte par ce biais-là aussi, par Facebook.
Oui. Par Facebook, où il y a mon numéro WhatsApp aussi qui est toujours disponible.
Je peux le mettre dans l'article?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.
Ok, je mettrai du coup dans l'article lié ton numéro de téléphone pour les gens qui veulent te contacter directement. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un beau tour. On a réussi à tenir avant la fin de batterie de tes AirPods. Je vais te dire un double merci. Merci pour ce très bel épisode, cette belle conversation. Merci de t'être ouverte sur ce sujet qui peut faire polémique entre guillemets. C'est chouette que tu aies accepté de t'exprimer publiquement sur cet outil qui peut être, comme on l'a dit, merveilleux. Et un deuxième merci beaucoup plus personnel pour la retraite qu'on a vécue ensemble, qui m'a énormément apporté sur le plan personnel, qui a été d'une part un très très beau voyage et en plus a enrichi ma vie et mon cœur pour le restant de mes jours, j'imagine. Enfin, j'espère. Bon, les AirPods d'Alison ont finalement rendu l'âme à la fin de cet enregistrement, mais elle m'a offert de vous partager cette chanson qu'elle a interprétée pour vous souhaiter une belle journée.
Camina y llega a vos.